Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Si c'est bon pour toi, j'ai appuyé sur play et nous sommes en train d'enregistrer. Aujourd'hui, on est avec Sébastien Foucra. Alors, si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est peut-être un des messieurs, moi, qui m'inspire le plus en ce moment dans ma quête de reconversion professionnelle. Et du coup, je regarde un petit peu ce que tu fais. Mais bon, on pourra en reparler de cette aventure Les Étoiles du Sport, que je trouve une maison, une institution dans le sport aujourd'hui. Et tu vois, quand je parle à des athlètes des Étoiles du Sport, mais ils ont des étoiles dans les yeux comme des enfants et on voit que c'est une famille, on voit que c'est une vraie maison et une vraie famille, ouais, qui porte des valeurs du coup je serais très curieux de savoir un petit peu comment ça s'est créé, mais déjà comment ça va?
Ça va très très bien, merci de me donner ce temps de parole. Ben cool, écoute, je suis vraiment ravi, je t'avoue, enfin, à cœur ouvert et à bâton rompu, que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les étoiles du sport et même tout ce que tu as pu créer jusque-là. Mais avant qu'on parle de tout ça, je t'ai dit, j'aime bien parler de l'enfance, savoir un petit peu qui étaient les invités quand ils étaient plus jeunes. C'est peut-être mon biais de papa. Et du coup, je suis curieux de savoir comment était le petit Sébastien. Et la première question que je pose aux invités, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport?
Alors mon tout premier souvenir de sport, c'était du ski. J'ai commencé le ski bien que parisien. J'ai
Ouais.
découvert le ski parce que ma grand-mère habitait à Aurillac,
OK.
dans le Cantal. Et à côté d'Aurillac, il y a une station de ski qui s'appelle le Superluron. Et donc on a découvert ça très jeune pour des Parisiens, puisque avec mon frère qui a 11 mois de plus que moi, on est parti chez ma grand-mère. Et sur les vacances de février, mes parents me mettent sur des skis, j'ai 3 ans. Et c'est pour ça que je m'en rappelle, c'est que j'ai eu très peur. Et donc ils m'ont mis sur des skis, ils n'avaient aucune notion pour encadrer ou autre. Et je me rappelle avoir dévalé la piste tout droit et c'est un trou qui m'a arrêté. Et vraiment, ça m'avait fait très très peur et au point d'avoir beaucoup de mal à reprendre. Je savais pas que des années plus tard, je ferais une carrière d'acrobate, mais c'est un souvenir vraiment marquant.
Ok. Et du coup, t'as eu du mal à retourner sur les skis après ça?
Oui, parce que voilà, j'avais eu tellement peur que j'étais totalement assis au lieu d'être debout et puis d'être plutôt sur l'avant,
Ouais.
fléchis les skis collés de l'époque. Et oui, je me rappelle vraiment, j'ai des images très précises. C'était pourtant il y a 47 ans.
Ça nous rajeunit pas tout ça, mais t'as fait beaucoup de sport quand t'étais plus jeune?
Oui, à
Ouais.
6 ans. Alors au début, le seul sport auquel j'ai pas totalement adhéré, c'était le judo.
Ok.
Donc, je m'excuse auprès de tous les judokas que j'apprécie, mais moi, c'est pas le truc qui m'a plu. Et tout de suite après le judo, j'ai commencé la gym.
Ouais.
Et là, par contre, j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai fait de la gym de 6 ans jusqu'à que je parte au ski acrobatique. Et parallèlement à ça, parce que mes parents, ils voulaient que je fasse un sport individuel, un sport collectif. Alors, j'étais dingue de sport, moi. Vraiment, dès que j'en touchais un, je tombais dedans, à part le
Ouais.
judo que j'ai pas apprécié. Et pendant longtemps, j'ai fait, enfin, pendant quelques années, j'ai fait du hockey sur glace, parce qu'on
OK.
habitait près d'une patinoire. Puis quand on a déménagé, c'était compliqué, d'y aller. Et là, je me suis mis au karaté,
OK.
parce que mon père était prof de karaté. Et
Je sais
donc,
pas.
voilà, et la gymnastique, ma première passion a fait naître chez moi, bah déjà l'envie d'être performant, et puis a mis en avant des qualités d'acrobate. J'étais pas, à l'époque, il fallait vraiment faire les 6 agrès, il y avait moins de spécialités qu'aujourd'hui. Enfin, les 6 agrès existent toujours, mais les généralistes et les spécialistes, tout le monde était
Ouais.
mis dans le même. Enfin, on était obligé de faire les 6 agrès. Et sur les 6 agrès, les agrès d'appui, j'étais vraiment faible en hareçon parallèle.
OK.
Et je m'éclatais dès que j'étais en l'air, quoi.
OK.
Mais pas en appui.
OK, et t'as fait du haut niveau, il me semble, en gymnastique, non? T'as fait pas mal de compètes et tout,
J'ai fait du bon niveau, qui
non?
tendait vers le haut niveau, mais je n'aurais pas eu les qualités, surtout à l'époque, de faire du haut niveau. Donc, oui, j'ai fait les premiers Jeux de l'avenir. J'étais dans les sélections régionales avec des athlètes qui ont été brillants par la suite. Mais j'aurais jamais atteint le très haut niveau, même si j'aurais adoré, parce que j'avais déjà cette fibre-là. Mais j'aurais pas eu le niveau de faire du très haut niveau en gym.
Ok. Et déjà enfant, ouais, tu te rêvais un peu champion. Tu t'avais des sources d'inspiration. T'avais envie d'en faire ta vie, peut-être du sport.
Bon, c'était pas clair.
Ouais.
C'était pas clair dans le sens en faire ma vie. Alors faire du sport toute ma vie, c'était clair. Je m'orientais assez naturellement vers un professorat d'éducation physique. On appelait même pas ça professorat de sport encore à l'époque. Mais ouais, les champions me faisaient vibrer et j'aspirais à en devenir un. Et puis les sports que je touchais. On sentait tout de suite que j'avais du potentiel. Donc moi, ça m'encourageait à rêver sans le dire, mais que je voulais être un champion.
Ouais. Ok. Et l'école?
Assez tôt.
Et l'école dans tout ça?
Bah, l'école, au début, ça allait. Alors, je suis rentré en avance à l'école parce que on avait 11 mois d'écart avec mon frère, donc j'étais à le suivre et donc à être un peu plus mature que qu'un enfant de mon âge. Ma mère était instite et donc pendant très longtemps, j'ai eu un an d'avance et on était même dans la même classe avec mon frère, ce qui était bien parce qu'on était très soudés, on l'est toujours.
Ok.
Mais à la période de l'adolescence, on était un peu trop soudés et ensemble, on était un peu agités. Ce qui fait qu'ils ont même pris la décision en plein milieu d'année scolaire de nous changer de classe, de plus être dans la même classe. Mais on s'est retrouvés en seconde. Mal leur en a pris. Et là, c'est ouais, pareil, on était un peu agités.
Ouais, vous préférez vite terminer les cours pour aller faire du sport ou aller faire des bêtises un peu à droite à gauche.
Ouais, alors le sport nous a canalisé vraiment parce qu'on était et l'un et l'autre dingue de sport pour de vrai. Donc c'était effectivement l'école et le sport et tous les sports. Même si j'étais en club et avec un bon niveau en gym, dès que je pouvais faire autre chose, je le faisais.
Ouais.
J'avais beaucoup au foot avec les copains. Enfin tous les sports, sport co, le ski d'hiver où j'étais déjà vraiment passionné même si je passais peu de temps.
Ouais.
Puisque j'habitais Paris, bien sûr.
Okay. Et ton frère, il faisait les mêmes sports que toi ?
Oui, on a suivi à peu près la même trajectoire en sport. Il avait pas le même niveau, mais la même passion, et, ouais. Mais pas la même ambition.
Ouais.
Lui, c'était vraiment le sport, si ce n'est plaisir, parce qu'en gymnastique, il était vraiment pas terrible. Par contre, en karaté, ok, il était très très bien. Et donc, il avait quand même cet esprit de compète, mais c'était pas aussi affirmé que moi. Et c'était et ça reste toujours un bon sportif et il a fait une carrière où le sport était important aussi puisqu'il était officier dans la Légion étrangère pendant 10 ans et le sport est bien évidemment au cœur de l'armée et donc il a continué à en faire et il continue d'en faire d'ailleurs.
Ok, d'accord. Bon bah écoute, ouais, je suis toujours curieux de savoir un petit peu comment les champions étaient plus jeunes. Moi j'ai cru comprendre que vous avez fait les 400 coups tous les deux.
Ouais.
Vous êtes bien canalisés depuis.
Ouais, heureusement.
Et comment est-ce que tu tombes du coup dans le ski acrobatique? J'ai cru comprendre que c'est un certain monsieur Henri Autier qui t'a vu en train de faire du trampoline et ouais. Qui s'est dit tiens, là, il y a une pépite.
Ouais, comme finalement beaucoup de parcours d'athlètes. C'est des rencontres, c'est parfois le hasard, c'est pas toujours la filiation, à dire c'est le papa qui a dit qu'il fallait faire ci ou ça. Moi j'adorais le ski et nos premières vacances d'été où nos parents nous ont autorisé à partir tout seul après avoir travaillé un mois pour se les payer, on est parti à Tignes.
Okay.
Faire du ski d'été. À l'époque les glaciers étaient des vrais glaciers, on pouvait skier toute l'année. D'ailleurs le slogan de Tignes c'était du ski 365 jours par an. Donc le glacier était ouvert toute l'année. Et en plein mois d'août, on pouvait skier jusqu'à 13h, 14h. Et après le ski, Tignes était déjà une place de sport. Elle s'est renforcée avec le temps, mais je faisais un footing autour du lac de Tignes et j'ai vu d'abord les trampolines et la piste tumbling avant de voir les rampes de ski accro.
Okay.
Et j'ai demandé à pouvoir sauter aux trampolines. Et c'était un stage privé qui était piloté par Henri Autier. Qui est toujours le pionnier du ski acrobatique en France, s'appelait le hot dog à l'époque. Le hot dog, c'était un enchaînement des trois disciplines qui se sont découpées après.
Ouais.
Où sur une même piste, ils faisaient des bosses, du saut et du ballet. Une espèce de patinage artistique avec des skis. Et Henri a ramené ça des États-Unis et initiait les vacanciers et skieurs qui sortaient du cadre du ski alpin. Au boss le matin et puis l'après-midi sauter sur la rampe. Et en demandant, on m'a dit que c'était un stage privé, que ça coûtait 50 francs. Et donc c'était en début de quinzaine, c'était le tout premier jour et je paye mes 50 francs. Et donc ils me font sauter au trampoline parce que c'était l'échauffement. Et ils voient qu'effectivement je suis un acrobate, un véritable acrobate puisque il y avait un trampoline dans mon gymnase à Noisy-le-Grand. Et comme je le disais précédemment, j'étais en gymnastique, mes qualités c'était l'acrobatie pure. Donc il voit que je suis acrobate, il vient me voir et il me demande si je sais skier. Alors je lui dis oui. Il me demande si je voulais sauter. Je lui dis oui. j'étais gymnaste, donc assez assez carré, et donc il me fait sauter sur la rampe, et au bout de l'entraînement, il vient me voir et il me dit: est-ce que tu veux revenir demain? Et je lui dis que non, parce que j'ai pas prévu un budget de 50 francs tous les jours pendant 15 jours. Et il me dit: oublie l'argent, si tu veux revenir demain, tu reviens demain. Ce que j'ai fait le lendemain, puis le surlendemain, et comme ça pendant 15 jours. Et à l'issue des 15 jours, il vient me voir, il me dit, il était un peu rustre.
Ouais.
Et il me dit, ça te plaît? Alors je lui dis oui. Il me dit: tu veux continuer? Je lui dis oui. Et il me dit, j'ai appelé l'entraîneur de l'équipe de France, Gérard Méda. Et lui, il s'occupe du centre national qui se trouve à Évian, où là, il y a des vrais gros tremplins et une vraie méthode pour apprendre le saut. Et donc, entre temps, mon frère, en jouant au foot, il se pète un croisé. On rentre à Paris à la fin des vacances et on raconte l'histoire à mes parents. Et mes parents décident de faire le tour des chirurgiens, de s'occuper de mon frère, et m'autorisent à aller faire un stage d'une semaine à Évian avant la rentrée scolaire. Et à l'issue de ce stage, l'entraîneur national qui me suit, qui me regarde, découvre effectivement que j'ai des qualités. Et sans me le dire, il appelle les trois présidents de club des clubs parisiens. Les trois présidents de club, donc on est dans les fins des années 80. À l'époque, les licenciés, il y avait pas mal de licenciés à Paris, parce que en prenant une licence dans un club parisien, pour le million de skieurs parisiens, ça leur permettait d'avoir des avantages.
Ok, ouais.
Donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de licenciés. Les clubs se retrouvaient donc avec quelques moyens.
Ouais.
Et finalement, pas grand chose pour les dépenser au-delà de courses corpo en ski alpin et de petites animations. Et quand un entraîneur national appelle un président de club, d'un coup ils se disent il y a un truc. Et de fait, les trois présidents de club appellent ma mère, puisque bien sûr je suis mineur. Et ouais. Il y en a un, Bernard Torfou, du ski club de Viroflay, qui dit à ma mère: moi je prends tout en charge, je prends son matériel, ses déplacements, ses stages, je prends tout. Et mes parents sont tous les deux fonctionnaires, ils n'ont absolument pas les moyens de m'envoyer au ski toutes les semaines et tous les week-ends, et donc accepte la proposition, et c'est comme ça que démarre l'aventure. Et je vais y passer toute ma carrière au sein de ce ski club.
Et avec le recul, c'est pas dur pour un jeune, tu vois, de tout plaquer pour tu vois, de quitter ses parents, j'imagine que tu t'es à l'internat, du coup tu t'es un peu t'es éloigné de ta famille, tu changes de ville, tu changes complètement de rythme. Avec le recul, c'était ce que tu voulais, ou c'était quelque chose, tu vois, un peu où tu te doutais pas, tu vois, que ça allait être
Non, moi ce qui m'inspirait, c'était d'être champion, de gagner des médailles. Et en fait, la première année où je suis à Paris, où je fais des déplacements tous les week-ends pour faire des Coupes de France, où je suis dernier, avant-dernier, je vais jusqu'au championnat de France où tout le monde était qualifié, parce qu'on parle d'une petite communauté. Et pareil, je finis avant-dernier. Et là, l'entraîneur de l'équipe de France, il vient me voir et il me dit, il met le marché en main de façon très claire. Il me dit... si tu quittes Paris et que tu rentres dans un ski étude, je te prends dans les groupes de la Fédé, donc en équipe de France espoir.
Ok.
Et pourtant je donc ça me flatte.
Ouais.
Parce que quand je vois au championnat de France les meilleurs Français qui sont les meilleurs du monde, enfin parmi les meilleurs du monde, ils sont 3-4, et que je vois les sauts qu'ils font, je me dis jamais j'arriverai à faire ça, jamais. Mais en fait, il me flatte et il me propose un projet qui est celui dont j'ai rêvé. Donc je dis oui. Et effectivement, c'est très très dur une fois que tu dis oui. Donc là, je pars en stage tout l'été, et à la rentrée à Moutier, je sais pas si tu connais Moutier, mais c'est pas la ville la plus sexy. Et en internat, alors que moi j'ai grandi avec mon frère, qu'on est à l'école ensemble, qu'on est vraiment très proches. Là, je quitte mes parents et mon frère pour vivre cette aventure. Donc l'aventure, elle m'excite, mais la rentrée scolaire, tu trouves un internat, le week-end en famille d'accueil, le changement de vie est radical. Mais la passion me fait passer toutes les difficultés, parce que l'été, c'était très très bien passé, et puis je comprends je comprends très vite que j'ai des qualités, puisque l'hiver suivant, je suis champion du monde junior. Et en fait, en quelques mois, j'ai tout compris. Et j'ai mis en place à la fois mes qualités suffisantes de skieur, puisqu'il faut pas non plus être un grand skieur pour faire ma discipline, mais il faut quand même un minimum de sensations pour bien sortir du tremplin, pour une bonne réception, bref, et d'acrobate. Et je sens le truc très vite. Okay. Donc les résultats arrivent tout de suite. Donc j'ai pas la période à me dire est-ce que j'ai bien fait ou pas. Et j'ai une progression rapide mais régulière.
Ouais.
Et toutes les difficultés de l'environnement sont annexes finalement. Parce que je suis dans le truc qui me passionne le plus. Et les résultats arrivent.
Mais c'est dingue, parce que justement, tu vois, en t'écoutant, j'ai l'impression un peu qu'on te repère, qu'on dit tiens, bah va faire ce sport, t'auras un bel avenir dans ce sport, tu connais absolument rien de ce sport, mais on te propose le tapis rouge presque, tu vois, pour un jeune ado, alors que t'as absolument pas fait tes preuves, et ce pari est le bon, quoi. Ce pari est le bon, à la fois pour toi, pour les gens qui ont confiance en toi. C'est des histoires assez rare, tu vois. Ça me fait penser peut-être à Mathilde Gros, elle qu'on a mis sur un vélo un peu complètement par hasard. Et
complètement, elle était basketteuse, on la détecte à Aix-en-Provence, ils font des tests et ils appellent 50 ans en Yvelines, elle sait même pas ce que c'est que le cyclisme sur piste. Mais des exemples comme ça, il y en a des tonnes.
Okay.
Celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est, on en fera un roman, c'est celui de Marie-Jo Pérec.
Ouais.
Marie-Jo, elle est à l'école à Basse-Terre, où elle fait un 60 mètres, et la prof voit le chrono et se dit c'est pas possible, elle lui demande de recourir, elle veut pas. Et elle lui dit recours, sinon je vais le dire à ta grand-mère. Elle recourt, elle fait le même chrono, et elle l'oblige à faire une compète le week-end, alors qu'elle veut pas y aller, avec sa grand-mère lui dit t'as donné la parole, il faut que tu y ailles, et elle explose tout le monde et elle se qualifie pour les championnats de France.
Ouais.
Donc, et en fait, on s'aperçoit en discutant avec bon nombre d'athlètes qu'il y a toujours, alors c'est pas toujours aussi romanesque, mais c'est un copain, une copine, j'ai suivi un tel, et c'est comme ça que les passions se déclenchent. Et après, quel est le moteur qui fait que l'athlète va devenir un champion, et pour finir avec l'exemple de Marie-Jo, une icône. Ça, c'est autre chose, mais les démarrages sont souvent assez original.
Ouais, et puis il y a une part de hasard et de chance aussi, ouais, à trouver le sport dans lequel on s'épanouit. C'est la vie, quoi, tout simplement. C'est des histoires de vie, et c'est toujours improbable, ouais. C'est ton aventure, toi, en tant que jeune exilé un peu de ses racines et de sa famille, qui t'a donné peut-être envie plus tard de retransmettre aux jeunes. Tu vois, j'ai l'impression que une des grosses missions aujourd'hui des étoiles du sport, c'est effectivement d'aller reconnecter les jeunes justement avec des conseillers. Tu pourras effectivement expliquer un peu ce que vous faites dans les universités et tout, mais ça part d'où, tu vois, cette envie de redonner ou d'aider les jeunes? D'une aventure à toi?
Oui, ça part de tout ce cheminement.
Ouais.
C'est que si on reprend le fil de l'histoire, je suis pris en équipe de France. Je suis dans un club parisien au Comité de Paris. Le premier stage que je fais, même avant d'être pris en équipe de France, je rencontre Benoît.
Ouais.
Benoît qui, lui, fait des bosses, est au sein du Comité de Paris et est le responsable du stage. Donc un peu l'entraîneur, le guide de ce stage. Et là, je parle de ça il y a plus de 30 ans. Et finalement, même si on se perd de vue pendant quelques temps, le temps que moi je fasse mes armes en équipe de France et que lui arrête le ski, on va se retrouver sur un week-end où moi je suis en Coupe du Monde et lui en week-end entreprise.
Ouais.
Et me propose de m'accompagner en me disant je suis passé de l'autre côté de la barrière, si t'as besoin d'un coup de main financier notamment, eh bien je suis là. Et ce qu'il dit, il le fait. Il m'accompagne, il me donne un peu d'argent et il m'explique pourquoi il me donne de l'argent. Il me dit que mon histoire, elle est singulière et que si je viens la raconter au sein de son entreprise, c'est motivant. Ouais. Donc, il m'aide financièrement et puis il met la première pièce pour finalement m'accompagner vers une reconversion. C'est que là, alors que je n'aime pas et je ne sais pas m'exprimer en public et ni transmettre quelque chose, eh bien on va structurer mon histoire de façon à ce que je puisse la livrer. On va faire un petit film pour raconter ce parcours d'athlète et comme ça pendant toute ma carrière. Donc il m'a accompagné pendant toute ma carrière avant qu'on décide ensemble de créer une entreprise. Et c'est cette histoire finalement, ce parrainage, cet accompagnement d'abord comme athlète et puis après dans ma reconversion professionnelle jusqu'à aujourd'hui que l'on traduit au sein des étoiles.
Ouais.
Et donc on peut pas dire c'est que je me suis pas levé un matin en me disant c'est ça qui me ressemble. C'est la construction de mon parcours de vie qui fait que avec les personnes rencontrées et puis les mentors qui ont été fortement présents, il y a eu toujours des personnes clés. Il faut juste savoir les reconnaître et s'engager dans la bonne direction. Mais Henri Autier est une personne clé au départ parce que c'est la chance absolue de, même si derrière, quand on me tend la perche, je la saisis et je vais jusqu'au bout. Benoît est une personne clé, ultra constructive, prévenant, guide, sain. Et ces personnes clés là, elles sont sur le parcours d'une vie pour tout le monde. Après, on les voit, on les voit pas, on les saisit pas, et après, on se donne les moyens ou pas, parce que tout n'arrive pas tout cuit, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est la construction des étoiles. C'est pour ça que c'est effectivement intéressant de voir le parcours un peu original du Parisien qui fait du ski dans une discipline ultra confidentielle. C'est vraiment une niche.
Ouais.
Heureusement, à l'époque. C'est quand même la Fédé de ski est quand même bien structurée. Il y a une commission et puis on est dans les belles années où on est au démarrage des épreuves un peu alternatives, un peu fun avant les X Games, mais on est sur les prémices de l'évolution de la société. Aujourd'hui, il y a pléthore de disciplines alternatives dans le ski, bien sûr. Il y a qu'à voir le programme de Paris 2024 où on voit le breakdance, le skate, le surf. Tout ça sont devenus des disciplines qui sont structurées, qui sont au sein des programmes olympiques. Et on voit bien l'évolution de la société au regard de ce qu'on offre comme discipline. Nous, on était les premiers, finalement, à amorcer cette tendance un peu fluo, un peu rigolote. Et puis, on a eu des incarnants incroyables. Edgar Ropiron en était la tête de pont, mais représentait vraiment bien l'image, l'état d'esprit de la discipline, à la fois performante et athlétique de très haut niveau, mais avec le sourire.
Ouais, mais j'ai rencontré Edgar il y a peu de temps là, donc d'ailleurs je crois que son épisode est paru aujourd'hui, le jour où on enregistre. Donc
je l'écouterai.
Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui dégage une énergie assez incroyable, et effectivement j'ose bien croire qu'il a participé à l'émancipation des disciplines un peu plus atypiques et qu'on avait moins l'habitude de voir. Ouais. Et toi, quelles émotions te procure le ski acrobatique? C'est le plaisir d'être en l'air, le plaisir je suis très curieux en fait de savoir ce que tu ressens, notamment parce qu'en regardant quelques vidéos de toi, tu vois, avant un saut, on peut voir que tu cries un peu ou que tu te parles énormément. Et peut-être avant de pouvoir parler un peu des étoiles du sport et de ce que vous faites aujourd'hui, je voulais vraiment faire un petit focus sur les émotions du sauteur, parce que on sent qu'il se passe quelque chose, quoi, avant que tu sautes. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu ressens à ces moments-là, juste avant le saut, et quand t'es en l'air. Qu'est-ce que ça te procure aussi?
Alors,
comme...
plein de choses, et je pense que si tu poses la question à d'autres sauteurs, ils n'auront pas les mêmes réponses, parce que chacun trouve son plaisir de façon différente. Moi, ce que j'aimais profondément, et ce que j'aime toujours... c'est l'instant ou t'es en l'air. C'est-à-dire, ouais, ni la sortie de tremplin, ni la réception. C'est les 3 secondes et demie où t'es en l'air. Et, moi, j'étais vraiment chat. C'est-à-dire que je pouvais me mettre dans n'importe quelle position, je retombais sur mes pattes.
Okay.
Et donc, des fois, un peu cracra, mais j'ai ce truc-là d'être bien dans l'espace. Et même encore aujourd'hui, quand je vais au trampoline avec mon fils, qui aime bien sauter au trampoline, les trampolines de
tu
jeu.
Tu l'as mis dessus, du coup?
Pardon? Ouais.
Tu l'as mis au trampoline?
Non, je l'ai pas mis au trampoline. C'est lui qui, je l'ai pas mis au trampoline de compétition, ni en club, ni rien du tout. Mais quand il y a des trampolines en plastique, là, et là, il y a des aires de jeu avec des trampolines qui sont toujours en plastique, mais qui sont un peu plus, qui envoient un peu plus. Dès que je me retrouve dessus, je ressens tout de suite les sensations. Je les ai pas perdues.
Okay.
J'ai perdu du physique, j'ai perdu tout un tas de choses, du cœur pour m'engager, mais les sensations, je les ai toujours. Et sur un rocher, sur un plongeoir ou autre, je me perds pas. Je sais, je suis encore très acrobate.
Okay.
Et pourquoi? C'est parce que c'est vraiment ce qui me plaisait, ce qui me plaît, être en l'air.
Ouais.
Maintenant, le deuxième truc, c'était la capacité à s'engager, parce que c'était malgré tout, c'est quand même surtout à l'époque là, c'est tellement structuré maintenant, tellement. Mais partir pour monter à 15 à 17 mètres de haut, il faut quand même s'engager.
Ouais.
Inventer des sauts, il faut. Et se dire qu'on est le premier ou qu'on est 3 dans le monde à le faire, un truc, c'est assez grisant.
Ouais.
Et voilà. Mais par contre, ça, c'est ce qui m'a poussé à arrêter d'ailleurs, au-delà du fait que je pensais pas pouvoir être champion olympique après la médaille de Nagano. Le fait d'être en capacité de s'engager tous les jours, c'est lourd. De gérer l'appréhension, de faire un sport qui, malgré tout, est tellement engagé que tu peux te faire quand même mal.
Ouais.
D'avoir été blessé assez régulièrement. Au bout d'un moment, c'est pesant. Donc, il y en a qui passent comme ça au travers, mais moi, au bout d'un moment, ça me pesait, et vu que je voulais pas être mauvais, j'ai arrêté.
Il y a une peur? Quand tu dis cet engagement-là, c'était effectivement vis-à-vis de la peur, c'était vis-à-vis de...
Une peur réelle te tétanise, donc non. Mm. Mais une appréhension plus ou moins forte en fonction des jours, parce que t'es pas, même si t'essayes toujours de produire un espèce de rituel qui te met toujours en condition, ça n'empêche que tu fais un sport extérieur avec un facteur climatique, le vent, la qualité de la neige, des fois la réception, les bétons... et puis le ciel il est gris, t'es dans un contexte qui est pas favorable.
Ouais.
Et pour autant, ce jour-là, il faut que tu y ailles quand même. Alors si c'est une compète, bon bah tu fais la compète, mais déjà la compète avait cet effet où t'as moins peur le jour d'une compète. C'est
okay.
Bizarre. Ouais. Enfin, ça dépend qui, hein, mais parce que ça compte, parce qu'il y a des juges, parce que je sais pas quoi. Mais tu ne peux pas être bon en compète si tu t'entraînes pas à fond. Et moi, je prenais le contre-pied, c'est que quand les conditions étaient exécrables et qu'on potentiellement on annulait un entraînement, notamment sur les rampes, c'était les jours où je voulais absolument y aller.
Okay.
Et je me mettais des défis à me dire, bah tu sors le plus gros saut en 3 sauts ou tu le fais du premier coup. Donc gros échauffement et tu pars sur un triple avec cadri d'entrée. Ça c'était une façon de combattre justement, de prendre sur soi encore plus, de se dire le jour si c'est les Jeux Olympiques et que les conditions sont mauvaises. Tu vas pas dire que tu vas pas.
Ouais.
T'iras parce que, mais il faut être prêt. Mais c'est usant. Psychologiquement, c'est usant.
Ouais, je peux comprendre. Ouais.
En tout cas, moi, ça m'amuse.
Mais j'avais rencontré Antoine Denneria, ouais, qui m'avait raconté effectivement après sa blessure, cette boule au ventre en fait qu'il a et il y arrive plus du tout. Et il a été hyper transparent sur le fait que, bah, le jour où la peur s'installe, en fait, c'est très très difficile de revenir en arrière et à quel point on perd toutes ses sensations, on perd ses moyens, puis on se trouve moins bon. Donc le mental commence à jouer et commence à gamberger et quel point c'est difficile de sortir de cette situation là. Donc, je peux te comprendre. Et tu vois, avec le, c'est pour ça du coup toi que tu choisis un petit peu d'arrêter, que tu choisis après ta carrière, c'est tu te dis j'ai atteint le meilleur que j'ai pu atteindre et j'arriverai plus à m'engager au-delà de ce que t'as fait. Ou qu'est-ce qui a mené cette décision?
Alors deux choses. La première, c'est que j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés, que je m'étais écrit en classe de seconde sur un petit cahier.
C'était quoi?
Que t'es champion du monde, gagner la Coupe du Monde, être champion olympique. J'ai pas atteint complètement les objectifs puisque j'ai gagné la Coupe du Monde. J'ai été médaillé au championnat du monde et médaillé aux Jeux. Mais à chaque fois, j'avais donné le maximum. Et quand je fais deuxième à Nagano, c'est une victoire. Alors déjà parce que je reviens d'une blessure, je m'étais pété le croisé, etc. Mais l'Américain qui gagne, Eric Bergoust, il doit gagner. Et je pouvais pas le battre. Donc, étant au taquet, j'étais très heureux. J'avais eu le sentiment de vraiment atteindre mes objectifs. Et après, les objectifs de compétition, ça aurait été d'être champion olympique et d'être champion du monde. Mais pour ça, il faut y croire. Et moi, je me disais que j'étais pas capable de tenir encore 4 ans à ce rythme-là pour être compétitif 4 ans plus tard. Donc, plutôt que d'être 5e, 10e, j'ai préféré m'arrêter sur une bonne note. Ça a été ma dernière course officielle, les Jeux. Donc, j'ai fait une carrière très courte, riche. Riche des objectifs que je m'étais fixé, atteint le but de cette vie-là, et c'était pas très grave que je sois pas champion olympique. J'aurais été 4e, ça aurait été pareil. J'étais au taquet.
C'est marrant que tu dis ça, c'est facile de rebondir, je me rends pas compte, quand on prend une décision un peu sèche, comme ça. J'imagine que t'en as pas forcément parlé à tout le monde, avant même les Jeux. C'est facile de rebondir, d'une carrière de haut niveau, après ça.
Non, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Alors, en ce qui me concerne, ça a été parce que, donc Benoît, que j'évoquais précédemment, qui m'a accompagné pendant toute ma carrière, entre-temps, on avait déjà eu des idées ensemble sur... on a fait des conférences de presse à Paris pour faire découvrir ma discipline, expliquer... comment j'allais faire pour en revenant d'un croisé être champion olympique. Donc on a commencé à toucher un peu à notre métier de demain en créant un certain nombre d'opérations, et puis ensemble on s'est dit qu'on allait monter une société avec pour mission de rendre accessibles les stars du sport. Donc d'abord dans le ski, donc là je sors de Nagano avec tous les médaillés et on les embarque tous dans ce projet en disant déjà vous êtes tous diplômés d'État parce que moniteur de ski, et on va proposer d'accompagner le grand public fan de ski et aussi l'entreprise. Et puis on a créé un premier événement qui s'appelait le Trophée d'hiver des professions de santé, en y injectant tout de suite notre marque de fabrique. C'est que on rassemblait des gens d'un univers pour faire des épreuves un peu originales, mais encadrées que par des champions. Et c'est comme ça que qu'on s'est lancé. Et pour répondre à ta question, non, c'est pas facile de trouver sa voie. Mais moi, j'ai été beaucoup aidé par Benoît. J'avais la conviction, déjà une confiance en lui absolue, puisque on s'était connus, testés pendant des années. Une confiance absolue dans sa capacité à gérer une entreprise, puisque moi, j'en avais aucune notion. Et c'est le projet qui m'a porté. Et j'ai grandi professionnellement. Par son tutorat, par son accompagnement. Et puis je l'ai nourri aussi par mes réflexions, ma singularité, et puis finalement on est allé sur des niches très spécifiques qui nous caractérisent, et voilà. Mais ça reste encore 20 ans après un vrai sujet, la reconversion. Quel que soit l'aboutissement de la carrière, quelle que soit la discipline, la reconversion, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit aussi épanouissante que la vie d'athlète. Et souvent, c'est ce que les athlètes ont du mal à retrouver. Une place, déjà, dans une nouvelle vie, puisque un sportif de niveau, quelle que soit la discipline, il a une forme de statut. D'autant plus s'il a été champion, même s'il fait du tir à l'arc ou du tir au pistolet, ça n'empêche que dans les dans son univers, ça reste une référence. Le jour où on arrête, on bascule sur, on n'a plus de référence. Et pour autant, ce qui t'a fait te lever le matin pendant toute une carrière, il faut retrouver le même goût, la même volonté, la même ambition pour faire autre chose. Et pas toujours dans le sport. La facilité, c'est de rester dans le sport, mais des fois, ce n'est pas sa vocation. Donc, si c'est sa vocation, ça fait des super entraîneurs, des super accompagnants, des super... Si c'est pas ta vocation, ça fait des échecs et ça fait des hommes et des femmes malheureux.
Ouais.
Donc, la reconversion, c'est un vrai sujet.
Ouais, ben je vois à chaque fois que je rencontre un athlète, tu vois, on en parle et il y a beaucoup de...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a tant à dire, tu vois, à la fois parce que un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui a quand même des certaines capacités de travail et de résilience et d'abnégation et de rigueur. Et en même temps, certains peuvent avoir tendance à s'oublier un peu de qui ils sont, quels sont leurs goûts, quelles sont leurs motivations. Et du coup, le jour où effectivement on est un peu livré à soi-même, ça peut être, j'imagine que ça peut être pas facile, ouais.
Toutes les qualités que tu viens de dépeindre d'un athlète, il l'a. Ouais. Mais il l'a pour un objectif passionnant. Mmh. Ou souvent, comme ils le disent, même si le mot est finalement mal choisi, un rêve qui détire.
Ouais.
Le jour où tu bascules sur un parcours professionnel, tu as les mêmes qualités intrinsèques, mais est-ce que tu as le même objectif, le même rêve, le même sujet passionnant qui va faire que tes qualités vont s'exacerber. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a un bon travail de fait, hein, toutes ces dernières années où on accompagne un peu plus sur les doubles cursus, le double projet. Il y a des formations qui sont beaucoup plus ouvertes, un accompagnement qui est plus simple, qui est digitalisé, etc. Mais ce que je remarque, c'est que les athlètes, ils vont des fois pour se donner bonne conscience en se disant au moins j'aurai quelque chose le jour où j'arrête. Ok. Mmh. Mais est-ce que ce quelque chose, même si tu as un MBA, je sais pas quoi, un diplôme d'ingénieur, est-ce que ce quelque chose va te passionner autant? C'est la question. Et si oui, là, ça fait une reconversion réussie.
Ouais.
Sinon, même si tu as un diplôme reluisant, ça fera pas une reconversion épanouissante.
Ouais.
Et chez certains footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est ce que l'on retrouve, c'est le manque de sujets aussi excitants que ce qu'ils ont vécu. Mmh. Et en plus, ils ont de l'argent, donc ils se disent bon, j'ai le temps, mais ça fait des reconversions terribles.
Ouais.
Et la vie, elle est longue après une carrière.
Ouais, mais c'est justement, c'est un des sujets, tu vois, c'est qu'une carrière sportive, tu vois, ça va être 15 ans, 20 ans d'une vie et la vie après le sport, elle est aussi très très longue, et donc il faut pas la négliger, ouais. Ça, c'est, je veux bien te croire. Et toi, du coup, tu te voyais peut-être déjà entrepreneur en tant que sportif ou jeune? Non,
pas du tout.
Et tu sais ce qui a plu à Benoît en toi? Qu'est-ce qu'il a vu?
Bon, ça, il faudrait lui poser la question, mais mais je pense que c'est notre complémentarité. C'est aussi, en tout cas pendant ma carrière, le sentiment de d'aider quelqu'un qui atteint les objectifs qu'on avait déterminés un peu ensemble. Donc de voir que ça fonctionne quand t'es là, même si c'était pas le seul, hein, mais il a été une pièce importante dans ma carrière. Et ça a été une pièce essentielle dans ma reconversion.
Ouais.
Mais le sentiment de quand tu fais quelque chose que ça fonctionne, je pense que ça a dû lui plaire. Je pense qu'il il a vécu aussi un peu cette vie d'athlète de haut niveau et ses résultats incroyables, un peu comme si c'était aussi des siens, une espèce de transfert. Et puis après, on s'est nourri l'un l'autre pendant toutes ces années. Et c'est finalement ce qui est le plus riche de s'enrichir de l'autre. On voit bien que ce sont pas des mots que de dire que seules les équipes et les hommes portent les grands projets. Et il y a pas de, il y a des gens qui sont autodidactes, il y a des gens qui sont un peu plus solitaires, mais il y a personne qui se fait tout seul. Ça existe pas. Ouais. C'est même la personne qui dit qu'il sort de la rue et qu'il s'est fait tout seul. Non, elle s'est appuyée sur d'autres. Mmh. Elle s'est entourée d'autres. Elle s'est inspirée d'autres. Alors il y en a qui sont plus dans l'équipe pure et d'autres qui sont un peu plus individualistes. Mais le je me suis fait tout seul pour moi ne marche pas. Et donc c'est ce qu'il a. Il a dû apprécier chez moi comme ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'on s'est nourri l'un l'autre et on a progressé l'un l'autre et on a vécu une aventure commune assez incroyable.
Ok, mais ça a l'air d'être une évidence quand tu le racontes. En tout cas, que votre rencontre sonne comme quelque chose qui devait se faire ou qui devait se produire et que finalement il y a eu un espèce de mariage parfait. Parce que finalement, trouver un associé ou quelqu'un avec qui on a cette complémentarité là, c'est quand même très rare et c'est ça le plus beau, je trouve. Tu vois, de trouver.
Avec le temps, je pense que c'est vraiment la complémentarité qui fait que ça continue de marcher dans la difficulté pendant aussi longtemps. Parce que si t'es sur des profils, me semble-t-il, hein, mais sur des profils trop identique, parce qu'au début c'est ce qui peut rassembler, de voir un peu la même chose, d'avoir des caractères un peu communs, etc. À un moment, ça fait de l'électricité. Alors que quand t'es toujours à te nourrir de l'autre et à te faire grandir l'un l'autre, et puis qu'en plus ça rayonne un peu autour de toi, ça crée des bases quand même solides. Ouais. Après, c'est pas indestructible, hein, mais ça crée des bases solides.
Ok. Tu pourrais raconter les toutes premières étoiles du sport. D'où vient le nom, pourquoi cet événement-là, qu'est-ce que vous avez envie de l'apporter, comment est-ce que vous le financez.
Alors les étoiles, c'est finalement une idée vieille comme le monde, puisqu'on est vraiment sur du compagnonnage, du tutorat, du partage d'expérience entre deux générations. Ouais. Et l'idée, elle vient simplement de notre histoire à tous les deux. C'est pour ça que j'ai pris du temps à en donner les grands éléments. C'est que moi, je suis le pur produit étoile du sport. J'ai été aidé à la fois pendant ma carrière et encore plus dans ma reconversion. Qu'est-ce qu'on veut faire au travers de l'événement? C'est ça. C'est faire en sorte que nos athlètes qui ont des carrières courtes et sur la très très haute performance, elle est encore plus courte, faire en sorte que ils puissent aller plus vite parce qu'un aîné est déjà passé avant eux. Quand les plus grands, pas les citer parce qu'il y en a tellement qui sont passés sur l'événement, mais donnent de façon sincère un conseil à un jeune, le jeune, il l'écoute parce que c'est un grand champion. Et qu'en plus, il leur a formulé peut-être le conseil de façon différente de son entraîneur. Parce que ils sont bien entourés souvent par des bons entraîneurs, une cellule familiale qui est là, qui donne des conseils qui sont un peu les mêmes, sauf que des fois ils peuvent être dits différemment. Et là, d'un coup, parce que c'est dit par un tel et avec d'autres mots, ça te permet d'avancer. Donc la base de l'idée, c'est comment on fait pour transmettre cette expérience. Une expérience, si elle n'est pas transmise, elle est perdue. Donc comment on va faire en sorte de la transmettre? Donc la base de l'idée, c'est notre histoire. Notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes. Alors, les étoiles du sport, le nom. Au début, on était parti sur génération champion, mais le mot était déposé et que, malgré tout, il fallait que ce soit protégé. Celui-ci ne l'était pas. Et plus que les étoiles du sport, c'était la symbolique de la double étoile qui était marquante sur le logo, où il y a la petite étoile qui est prise sous son aile par la grande étoile et qui traduisait cette notion de main tendue. Voilà. Et le la première année, donc très rapidement, on avait monté le trophée d'hiver des professions de santé à la Plagne par un réseau de copains. J'ai mon meilleur ami qui s'appelle Olivier Alamand, qui était vice-champion olympique à Albertville en Bosse, derrière le gare. Et Olivier, qui est de la Plagne, station que je fréquentais, m'a ouvert quelques portes pour rencontrer les bonnes personnes. À l'époque, des décideurs à la SAP et à l'Office du Tourisme. Et sur le projet du Trophée d'hiver des professions de santé, on leur amenait un média qui était le groupe Quotidien Santé, Quotidien du médecin, pharmacien, qui touchait une cible qui les intéressait. Et ils ont vu que derrière notre idée, on a délivré quelque chose qui, leur convenait. Ils ont mesuré qu'on avait quelques qualités. Et un jour, c'est le directeur de l'Office du Tourisme de l'époque, avec qui je déjeune, qui me dit, on aimerait avoir un événement en lancement de saison. Est-ce que vous auriez une idée en tête? Et avec Benoît, on avait cette idée dans les cartons, qu'on a un peu marketé pour y trouver un nom, etc. Et qu'on a présenté à la Plagne. Et sur la copie blanche, ils ont dit, OK, on vous aide. Ça a été le premier euro. sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il faut monter le truc. Ouais. Et premier sportif qu'on va voir, c'est Fabien Galthié.
Okay.
Fabien, à l'époque, il est meilleur joueur du monde, IRB, capitaine du 15, capitaine au Stade français. Et Fabien, on l'avait fait intervenir sur un séminaire, c'était ses toutes premières interventions. Et le mec nous avait fait une super impression. Super impression de recherche d'humilité, d'intelligence. Et quand on a le projet des étoiles, on va le voir et on lui propose le projet. Et sur la copie blanche, il dit OK.
Okay.
Deuxième qu'on va voir, enfin que je vais voir, puisque là j'y vais tout seul. Je par l'intermédiaire d'une autre personne qui est toujours dans le réseau, qui s'appelle Serge Cotchunian, qui est agent dans le milieu du foot, etc. Parce qu'on s'est dit, il nous faut un footeux.
Ouais.
De 98. et il m'organise un rendez-vous à Bolton avec Youri Djorkaeff. Il joue à Bolton à l'époque. Ils étaient ouverts dans un hôtel. Je prends un EasyJet. Je débarque là-bas. Je sais même pas s'il va me recevoir, rien du tout. Et il m'ouvre la porte. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Et il me donne du temps. Et moi, je lui raconte l'histoire. Et il faudrait lui poser la question, mais il doit être galvanisé par mon énergie ou je sais pas quoi, parce que bien, on n'existe pas, on est des nains.
Ouais.
On n'existe vraiment pas. Et Youri dit, OK, je serai là à la conférence de presse de lancement, je serai là sur les étoiles. Et le troisième, parce qu'il nous fallait trois athlètes, enfin, dans notre esprit, pour montrer l'éclectisme des sports, là, je demande à Jean-Luc Crétier. Bon, là, c'était plus facile, parce qu'il était champion olympique avec moi à Nagano. Et autour de ces trois noms-là, on constitue le plateau qui se trouve être incroyable, puisque Jackson Richardson, Laura Flessel, Tony Estanguet, etc. Sur la première édition, on a un plateau de dingue. Et une fois qu'on a les athlètes qui nous suivent, on va voir les journalistes pour leur expliquer qu'est-ce qu'on est en train de monter. Et ce qui nous sauve aussi, c'est que les athlètes sont demandés, notamment Fabien est ultra demandé, pas le temps de répondre aux sollicitations.
Bien sûr.
Et dit notamment à Stade 2 qui le sollicitait en disant, sur cette période, je suis d'accord, mais il faut venir me tourner aux étoiles parce que je serai pas à Paris.
OK.
Et donc, il y a un espèce de pas d'engouement, faut pas exagérer, mais à essayer d'embarquer tout le monde, on en embarque quand même pas mal et puis on a un peu de chance d'avoir des gens comme Fabien qui jouent plus que le jeu et qui drainent avec lui aussi un certain nombre de médias. Et en ayant des athlètes et des médias, on continue d'œuvrer pour trouver des partenaires. C'est la mission la plus compliquée parce qu'on part d'une copie blanche, de scratch. Il n'y a pas de précédent. Donc vendre à un partenaire des retombées médiatiques potentielles, la visibilité pour sa marque, des histoires à raconter en s'appuyant sur les valeurs de l'événement, c'est un peu compliqué. Mais en lâchant rien, on arrive quand même à embarquer des partenaires qui nous donnent pas exactement ce qu'on demande en termes de ressources financières, mais qui nous aident et nous évitent de couler la boîte, puisqu'on va perdre de l'argent, bien sûr, sur la première édition, puis la seconde, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième.
Ok. Je savais pas ça. Et du coup, comment vous le financez si vous n'arrivez pas à créer des événements qui soient rentables dès le premier?
En travaillant deux fois plus à côté, puisque Déjà, il y avait une partie de l'entreprise. C'était d'abord une entreprise différente qui s'appelait Lyseum, qui était l'entreprise de Benoît, qui faisait du conseil en nutrition auprès de Labo Pharma.
Okay.
Et ce business-là était rentable. Et au sein du sport, en plus de notre événement, on organise des séminaires, on fait un peu de conseil, on essaye de se dépatouiller pour faire en sorte de combler le déficit de l'autre partie. Et puis, à Lyseum, à l'époque, la partie santé renfloue les caisses d'Lyseum Sport parce que il gagne un peu de sous et que de l'autre côté on en perd, mais on y croit et c'est ce qui nous sauve. Et puis au début on essaye de payer le moins possible, on fait tout nous, c'est-à-dire que déjà la première édition, on loge les mecs dans des apparts, donc c'est grands champions là. On fait les lits parce qu'on n'a pas les moyens de payer des femmes de ménage, etc. Donc on fait les lits, on porte les bagages, on fait tout. Mais c'est ce qui crée
l'expérience.
Ouais, cet état d'esprit, c'est là qu'il naît. Il naît parce que ils sentent réellement la bienveillance et la profondeur de l'objectif. Et on s'occupe autant des femmes et des enfants, ou des maris et des enfants, que de l'invité majeur.
Ouais.
Et ça, c'est un point qui va marquer nos invités. Déjà, nos invités sont habituellement invités seuls quand ils sont un peu connus ou un peu performants. Là, on invite en famille et on s'occupe de la famille autant que l'invité.
Ouais. Ouais, donc c'est un gros investissement en plus.
Oui, donc, c'est un gros investissement d'énergie. Ouais, les premières années, c'est ce qui fait la richesse du truc.
C'est incroyable. Et t'as des petites anecdotes, tu vois, des petites galères d'entrepreneurs, des petits, des moments qui t'ont marqué et qui t'ont fait dire, même si c'est pas le succès financier, ou même si on n'arrive pas à tout faire financer par les partenaires, j'y crois parce que t'as des petites anecdotes qui t'ont mis du baume au cœur ou qui t'ont fait vraiment dire là on est sur quelque chose de dingue.
Les choses marquantes au-delà des rencontres absolument incroyables qui ont jonché toutes les éditions, tous ces athlètes qui sont inspirants, non pas qu'ils me faisaient rêver ou j'étais fan d'eux ou Benoît fan d'eux, on n'a jamais été fan, mais hyper respectueux et très intéressant. Très intéressé par creuser ce qu'il y avait derrière toutes les anecdotes de construction de l'événement. Je citais les lits à faire, mais c'est des anecdotes qu'on ressort parce que tu comprends bien ton métier quand t'as tout fait, de la réflexion du concept, le market, la com, l'événement, l'organisation, la logistique, le terrain, puis commencer à toucher un peu la compréhension, parce que tout de suite on a voulu qu'il y ait des temps de cohésion un peu festifs, donc par réseau on essayait de rencontrer des artistes qu'on a embarqués sur l'événement, un Gérald Dahan qui est venu sur plein d'éditions. J'ai une anecdote sur un groupe qui était venu par rebond, qui était un peu connu à l'époque, qui s'appelait Pierre Paul Jacques, groupe de reggae, et donc la musique nous plaisait, sauf que un soir on débarque et puis ils étaient en train de répéter et on s'est dit tiens, la vie de ces musiciens, elle était un peu anachronique par rapport à notre cible, donc on s'est dit voilà, on a appris qu'il fallait faire aussi un peu attention dans le même si le groupe il avait été génial, etc., mais on s'était dit tiens, c'est pas forcément sur certains comportements des messages à envoyer. Bref, il y a sur les castings qu'on a pu faire, parce que on se souvient des super soirs des étoiles, mais il y a eu aussi des bides.
Ouais.
Et les bides où tu t'es hyper mal à l'aise vis-à-vis de l'artiste qui est venu bénévolement, parce qu'ils viennent tous bénévolement les artistes, même les plus connus, même les artistes internationaux, et là tu te mets à sa place où tu te dis putain, le mec il vient gratos parce qu'il aime les sportifs, parce que et puis il fait un bide, parce que c'est compliqué de proposer un un concert, un show, une pièce de théâtre ou autre pour un public qui est très hétérogène, composé de gens de différentes générations. Et quand t'arrives à embarquer tout le monde, ben voilà, ça fait un souvenir incroyable. Et quand tu fais un bide, là t'es vraiment mal pour l'artiste. Il faut aller le voir après pour lui dire merci.
Ouais, parce que c'est vrai que s'ils viennent bénévolement, c'est sûr que ça va pas être facile. C'est clairement. Et aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui la vision des étoiles du sport c'est toujours la même? C'est toujours de faire cette famille, cette transmission, et d'accompagner justement les jeunes vers leur carrière, enfin les accompagner dans leur carrière de champion.
La vision c'est exactement la même. Accompagner les jeunes dans leur métier de champion. Maintenant, elle s'est enrichie. Elle s'est enrichie par un programme qui vit toute l'année, par une volonté de s'ouvrir davantage au grand public, puisque les champions sont des exemples. L'exemple enseigne, et en plus, il y a un formidable catalyseur qui est Paris 2024, qui porte une ambition et des objectifs qui sont les mêmes que ceux que l'on porte depuis 20 ans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui voient dans la même direction, et on a aujourd'hui un réseau qui est en capacité de porter cette bonne parole. Donc oui, l'objectif c'est le même, c'est jeune. On a renforcé les actions pour aller au bout de l'objectif. Ça a été la création de la première université il y a 17 ans, où on a rassemblé les athlètes pour les accompagner dans ce métier de champion, donc autour de temps inspirationnel, de temps de formation, de clés à donner, de recettes à donner, qui a fait naître un outil qui s'appelle le carnet de la performance, qui nous a permis aussi d'embarquer des partenaires pour nous accompagner, parce que c'est comme ça que la Française des Jeux vient sur l'université. C'est parce qu'ils partageaient la même vision et ils avaient un peu plus de moyens que nous, et ensemble on a réussi à créer cette université. Donc on a renforcé le programme, et c'est quelque chose qui va continuer, mais on sait que ça ne doit pas s'arrêter là, parce que c'est pas en deux fois cinq jours et en animant un réseau un petit peu que tu ancres les choses. Il faut en faire encore plus. Donc oui, l'objectif est toujours le même, sauf que les outils sont un peu plus élaborés, mais nécessairement à enrichir encore.
Ok. Et qu'est-ce qu'un partenaire y trouve? C'est le fait de pouvoir adosser sa marque à des sportifs, il peut créer du contenu. Qu'est-ce qui peut le motiver en fait à venir participer et à vous accompagner?
En fait, chaque partenaire vient pour une raison qu'on va bien déterminer en amont ensemble. C'est ça qui va créer le fait que les gens restent. Mais il y en a aucun qui vient pour la même chose.
Ok.
Il peut venir pour un enjeu de notoriété. Il peut venir pour un enjeu d'image. Donc de s'approprier et de travailler sur des valeurs de l'événement qu'il partage. Il peut venir pour un enjeu de réseau, de rencontre des athlètes, de l'écosystème du sport, pour un enjeu de RP, de relations publiques ou de network, parce qu'il y a certains de ses clients qui peuvent être aussi des partenaires, et donc on a la possibilité de les rencontrer. Donc en fait, les étoiles, c'est une espèce de boule à facettes où on va venir chacun pour un objectif. Si on détermine bien l'objectif avec l'entreprise partenaire, à ce moment-là, on fera un succès du mariage. Parce qu'on va apporter une réponse à cet objectif et qui va se traduire par différents outils. Ça peut être ce qu'on vit actuellement sur France Télévisions. Il y a un programme court qui est billboardé par la MGN. Et on met en avant des valeurs que partagent les athlètes. Ça peut être une marque automobile comme Cupra qui se lance, qui est jeune, qui a des valeurs de performance et qui veut s'appuyer sur des athlètes qui sont en préparation sur les Jeux de Paris 2024, parce qu'il semble qu'il y a du sens et que cette activation, elle va se traduire par des captations de petits films, etc., qui vont incarner ces valeurs-là. Donc voilà, une bonne analyse. Comme un bon médecin, il faut d'abord diagnostiquer et après tu prémédiques, mais une bonne analyse des attentes des marques te permet d'apporter une réponse cohérente, et si cette réponse elle est effectivement délivrée, eh bien ça fait des jolis partenariats.
Ok, et du coup c'est comme ça que ça s'alimente aussi avec Alizéum, communication vis-à-vis des événements, et vous pouvez créer une boucle vertueuse, quoi, j'imagine.
Oui, on peut faire au sein des étoiles, si la réponse se trouve sur les étoiles. Et si la réponse ne se trouve pas sur les étoiles, ça n'empêche qu'on a le même niveau de compréhension, le même niveau de connaissance du microcosme du sport. Et si la réponse est le COJO, on peut accompagner un partenaire pour être partenaire du COJO, comité d'organisation des Jeux Olympiques.
Okay.
Donc voilà, on n'est pas toujours centré étoile du sport absolument.
Bien
et
sûr.
À ce moment-là, Elysium peut prendre le pas sur pour analyser les problématiques des uns et des autres.
Ok. Et toi aujourd'hui, ton rôle, comment est-ce que tu le définirais?
Alors mon rôle ou celui des étoiles, mon rôle perso?
Non, ton rôle à toi, ouais.
Ben moi, avec Benoît, on est fondateur de cet événement qui est notre bébé et que l'on souhaite faire porter un peu par d'autres personnes. Et c'est
bien
pour
sûr.
Ça qu'à chacune des étapes importantes, on embarque des réflexions de l'écosystème qui est autour de nous. Donc moi je suis un peu le gardien du temple en me disant il y a des valeurs que l'événement défend, il y a des actions concrètes que l'événement met en place, et comment on fait en sorte que ça perdure après moi, comment on fait en sorte que ça inspire les Français, les fédérations, les acteurs qui font un peu le même métier, les institutions, le CNESF, l'ANS, l'INSEP, le COJO, comment tout ça permet de transpirer pour faire avancer l'autre. Et donc il faut quelqu'un qui maintienne cet objectif-là. Et la plupart du temps, pour avoir interrogé plein d'athlètes qui sont passés sur les étoiles, comme tu as pu me dire tout à l'heure, effectivement, les athlètes ont des étoiles dans les yeux parce que c'est pas qu'ils aiment Benoît ou moi, c'est qu'ils aiment ce qu'ils ont trouvé. Donc ça veut dire qu'on a amené une réponse et qu'on répondait à un manque. Et ils aiment le mouvement étoile du sport. Et à partir du moment où tous ces gens-là aiment ça, et que ça répond à un manque, bah il faut aller plus loin pour que ça transpire, que l'on reste au cœur du sport de haut niveau qui est notre famille, mais que ça transpire et que ça inspire les autres, les gamins dans les écoles, les collaborateurs dans les entreprises, que ça leur permette de se remettre en mouvement, que l'on aille sur des problématiques de désédentarisation, et c'est tout ça que les étoiles peuvent apporter.
Ouais.
Donc l'ambition, elle est là de s'ouvrir, de bien faire ce que l'on fait au sein de notre famille, mais que ça permette de faire avancer les Français.
Et du coup, ton rêve ultime avec les étoiles, qu'est-ce que ce serait? À quel moment tu pourrais te dire c'est bon, j'arrête, j'ai rempli ma mission?
Bah, le rêve ultime, c'est que ça perdure, qu'il y ait eu un avant et un après étoile du sport, qu'il y ait une incarnation des étoiles de façon physique, avec des lieux étoiles du sport qui délivrent toute cette expertise, toute cette mixité de familles, d'entreprises et autres qui gravitent autour de cet écosystème qui est pas simple à appréhender, mais qui, lorsqu'on l'a compris, peut permettre de faire évoluer les autres. Voilà, si un jour c'est comme ça, et puis d'une certaine façon que ce soit reconnu, parce que il y a besoin d'une forme de reconnaissance pour être encore plus crédible ailleurs, sur un plus large. Parce qu'en 20 ans, les étoiles, si on pose la question à quelqu'un qui fait juste qu'aimer le sport, il va se dire, ah oui, j'ai vu quelques images à la télé ou, mais il sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour que, cette personne puisse réellement s'en inspirer et que ça puisse faire évoluer son quotidien. Et voilà.
Ok. Bon, en tout cas, il y a beaucoup, il y a du pain sur la planche. Il y a beaucoup à faire. Et où est-ce que tu prends du plaisir toi aujourd'hui dans tout ça? C'est dans le management, c'est dans le fait de toujours rencontrer plus de gens, c'est le fait de justement construire cette vision, de l'écrire. C'est de
moi, de façon très très égoïste, mon plaisir, je le prends quand je suis à l'université ou à l'atelier des coachs. Et que je vis cet événement comme un invité, c'est-à-dire que j'écoute tout ce qui se dit, les témoignages pour les avoir préparés pour certains, faire en sorte que tous les intervenants, qu'ils soient du monde sportif ou d'autres mondes, puissent se livrer avec sincérité pour faire avancer l'autre. Et quand t'es dans l'auditoire, tu prends une énergie qui est absolue. Autant monter l'événement hivernal qui est devenu un gros
le
temps...
Pire, ouais.
C'est pas le moment qui est le plus excitant parce que tu délivres quelque chose qui où il y a quand même un peu de pression, un peu d'attente, un peu de et tu passes pas de temps avec les gens. Quand t'es sur une université ou un atelier des coachs, tu ne fais que te nourrir de l'autre. Mmh. Et on crée les conditions pour que chacun puisse avoir envie de donner. Et il y a un éclectisme dans les intervenants qui t'enrichissent. Et c'est vraiment là où je suis heureux.
Ok.
Alors ça fait des fenêtres courtes, hein. Mais voilà, après le plaisir, c'est effectivement de se dire comment on va un peu plus loin. Mais le vrai kiff, c'est de vivre l'université ou l'atelier des coachs.
Ça marche. Et comment est-ce que tu te reposes? Comment est-ce que tu libères un peu la pression?
En faisant du sport.
C'est vrai? Tu fais quoi en ce moment?
Bah, quand je fais pas grand chose, je cours.
Ce qui est okay.
Ça fait longtemps que alors il y a eu la pandémie, etc., mais j'aime bien prendre un dossard, fais quelques marathons, quelques triathlons, un Ironman. Donc j'aime bien encore l'objectif, de se fixer un objectif que tu vas réaliser. Mais j'adore jouer au tennis. Je joue très peu, mais une demi-fois par semaine. J'aime encore tous les sports. C'est juste que j'ai pas le temps, mais c'est pas que je m'impose parce que j'en ai besoin. Mais je continue à avoir une vie de un peu sportive quand même et active parce que je suis en vélo, à pied.
Bien sûr. Bon, ben, ça plaira aux auditeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de coureurs à pied et de triathlètes, donc ils sont peut-être curieux d'aller voir tes temps ou voir un peu où est-ce que tu peux courir. Moi, pareil aussi, ça me manque là de pas reprendre un dossard. On m'a proposé hier, figure-toi, d'aller courir le semi de Paris, donc je crois que je vais céder à la tentation. Donc c'est pour reprendre le dossard d'une collègue qui s'est fait mal au genou, donc bon, faudrait pas que ça soit perdu. Donc écoute, très chouette. Aujourd'hui, comment est-ce que tu continues de progresser?
Dans mon métier?
Ouais, dans ton métier ou même en tant qu'humain?
En m'inspirant de l'autre. À chaque fois, c'est la même chose. C'est l'autre qui les rencontres, des moments qui te touchent. Et pas toujours, et pas que dans le milieu du sport, dans le milieu artistique. Un Jacques Gamblin qui est très proche de l'événement, qui s'implique beaucoup, qui a un artiste un peu écorché qui est d'une profondeur absolue. Quand tu rencontres des gens comme ça, ça te fait grandir. Et puis dans d'autres registres, on avait fait intervenir avec Fabien et Benoît, général de Villiers.
Ouais.
Fabuleux, intervention incroyable. François Barouin qui était intervenu sur l'atelier des coachs. Le mec était d'une richesse absolue à donner à l'autre dans des cercles privés. Les parcours de vie, c'est ça qui me porte.
Ok, ça marche. L'avant-dernière question que je pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde autour de toi, tellement il a pu t'apporter.
Là, tu me prends à froid.
Bon,
Il y a un livre que, alors, un livre de Paolo Coelho, l'alchimiste, que m'avait offert Benoît, qui m'avait bien aidé.
Ok.
Et puis Dan Millman.
Ok. Je le connais pas. Mais écoute, je me le note. En tout cas, merci pour la recommandation. Et ouais, Paolo Coelho, il revient souvent sur ce podcast, l'alchimiste. Donc, il a été cité assez souvent, je crois aussi, de mémoire par Arnaud Assoumani, le premier à me l'avoir recommandé. Donc, peut-être qu'il y a peut-être un lien. Mais il faut absolument que je lise, du coup. Parce que vous êtes nombreux à le dire. Et la toute dernière question, c'est de savoir, toi qui connais du monde, qui est-ce que t'aimerais bien écouter sur un podcast comme ça, un peu inspirationnel, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller inviter et pour ma prochaine interview?
Moi, je vais t'en citer trois. Thomas Coville, qui est d'une profondeur absolue et qui est un poisson compliqué à attraper, mais quand tu l'as, il est là.
Ouais, je l'ai rencontré.
Et toujours, Thomas, et puis d'un altruisme, d'une intelligence, d'une vision, voilà. Bon, Thomas Coville, Fabien Galthié,
okay.
Qui pour moi est pareil, qui a des qualités d'écoute, d'analyse, de vision et humaine de façon, en tout cas moi qui me touche. Mais qui sait aussi déconner et qui Marie-Jo, bien sûr qui est une si elle a vraiment qui est une femme qui a une qualité absolue qui ressent les gens, donc après si elle donne ce qu'elle a vraiment au fond d'elle, ce qu'elle peut faire en privé, après sur un podcast je sais pas, ce serait incroyable. Yann Kuchra est un garçon merveilleux, un ancien gymnaste. Bon, je pourrais en sortir beaucoup. M'en as demandé 3 ou 4, donc.
Écoute, c'est très gentil déjà. Merci beaucoup de ta générosité. Et écoute, j'espère que effectivement j'aurai l'occasion de, dans cette longue carrière qu'est le podcast, de pouvoir au moins tous les rencontrer, pas forcément au micro, mais peut-être aussi au détour d'un café ou d'une conversation. Des fois c'est tout aussi intéressant, même si ce n'est plus. Je sais à quel point le micro peut être un peu intimidant, même s'il n'y a pas de caméra, mais
je vais en rajouter un qui est plus un athlète, mais qui est un homme délicieux et qui est d'une profondeur absolue. C'est Arsène Wenger.
Ah, écoute, avec grand plaisir. Ça, c'est sûr que je pourrais boire ses paroles pendant des heures. J'adore à chaque fois que je le vois passer sur une conférence. Donc merci de la reco. Effectivement, il faudrait que je trouve le contact. Donc écoute, avec grand plaisir. Merci infiniment Sébastien pour ce temps. Écoute, je me suis régalé à prendre le temps à discuter un peu avec toi et prendre tes conseils aussi, parce que tu m'as distillé quelques petits grains de sel par-ci par-là que j'ai pris effectivement sur tes réflexions et tout, donc ça m'a beaucoup apporté. Je pense que je réécouterai cette conversation en prenant le temps aussi.
Avec plaisir.
Au détour d'un footing ou sur mon vélo. Un dernier mot pour la route ou?
Oui, mais merci à toi, aux auditeurs qui vont écouter ce podcast, et merci beaucoup de t'intéresser aux étoiles, parce qu'on a besoin de relais pour porter ce message et faire en sorte que ce soit suivi par des actions. Mmh. Et voilà.
Bah écoute, ouais, comme je te le disais, c'est une histoire de valeurs partagées aussi, et de ressentir à quel point une structure ou un événement comme les étoiles sont importants et sont et délivrent beaucoup de valeurs aux champions, tu vois. Et tu vois, j'espère. Enfin, longue vie vraiment aux étoiles, tu vois. Et je pense que si je me suis permis de te solliciter, c'est parce que ouais, il y avait une curiosité et aussi un partage de valeurs qui me touchait. Donc longue vie aux étoiles et puis longue vie aux extraterrestres aussi, pourquoi pas.
Ouais, longue vie extraterrestre, exactement.
Merci Sébastien, à bientôt.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.